des épîtres de Jean. Et donc on va continuer notre lecture suivie. Première lettre de Jean, nous sommes au chapitre 2 et nous lirons à partir du verset 12. Et avant de lire la parole de Dieu, on veut chercher d'être éclairé à l'intérieur de nous par l'Esprit Saint. Alors nous prions. Selon ta promesse, Seigneur, tu as envoyé l'Esprit Saint sur ton peuple. Et nous tous qui avons reçu le baptême d'eau, tu nous as fait la promesse de nous donner le baptême d'esprit et nous l'avons reçu par la foi. En tout cas, je l'espère pour tous ici présents. Et fort de cet esprit, Seigneur, nous voulons lire tes Écritures saintes, qui elles aussi ont été inspirées par le même esprit. Et Seigneur, nous voulons que tu nous disposes à les comprendre, à les recevoir, pour qu'elle nous édifie et nous façonne à ton image, pour te ressembler, pour être de plus en plus humain et être de plus en plus des sources de bénédiction sur cette terre. Et pour, Seigneur, participer déjà maintenant au règne que tu vas instaurer sur terre. Amen. Donc je rappelle brièvement le contexte. Jean écrit à des églises, en tout cas dans cette première épître. On voit qu'il s'adresse un peu de manière très générale à plusieurs chrétiens. Et il leur écrit parce qu'il y a une nouvelle façon de penser le christianisme qui émerge au sein de ces églises dont il a la charge. Et dans cette nouvelle façon de penser le christianisme, en fait, eh bien, il y a des pensées un peu orientales, un peu grec, qui s'insinue dans le christianisme. Elle ressemble un peu aux idées de Platon, pour ceux qui connaissent Platon, Socrate. Et dans ces nouvelles idées-là, on se dit, non mais, c'est pas possible que la divinité, le créateur du monde, s'abaisse, se souille en s'incarnant. Il est trop parfait, trop pur, il va pas se dégrader, se limiter en devenant réellement humain. Alors ils imaginent un truc sympa, c'est qu'en fait, non, il a pris un costume, il s'est déguisé, il a fait semblant d'être humain pour qu'on soit pas, pour pouvoir nous rejoindre un peu, mais quand même, il n'a pas pris la nature humaine. Et ce courant qui démarre là dans les épîtres de Jean et qui va se développer un peu plus tard au cours du IIe siècle, on a des pères de l'Église qui l'ont combattu fermement, ça s'appelle le docétisme, parce que dokeo en grec, ça veut dire paraître. Voilà. Et donc Dieu a paru comme un humain, mais en fait, il n'était pas vraiment humain. Et je ne pourrais pas vous lister tous les changements et tout ce qu'on perd, en fait, dans la foi chrétienne, si on imagine que Dieu est purement divin et qu'on arrête de croire qu'il est vraiment devenu un humain. Ce serait assez long, mais il y en a beaucoup. Et donc Jean combat cette fausse façon de penser qui rejette le fait que Jésus soit né, vraiment, et qu'en Jésus qui naît vraiment, c'est Dieu qui nous rejoint dans notre monde, dans notre réalité. Et parmi les choses qu'il cherche à on a vu la semaine dernière qu'il avait donné un espèce de test aux chrétiens à vivre, le test de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, a dit le Seigneur Jésus. Et Jean dit, ben voilà, c'est le test. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et lui, il ne risque pas de tomber. Mais celui qui prétend être dans la lumière, mais qui n'aime pas, lui, il est complètement aveuglé. Et il marche vraiment dans les ténèbres, et il va à sa perte. Alors on se dit, ouais, mais le test de Jean, il est gentil, mais personne ne peut réussir ce test de l'amour. Qui peut prétendre aimer son prochain comme Jésus l'a aimé lui-même ? Oui, mais Jean nous avait rassurés en nous rappelant le pardon. Celui qui est dans la lumière, il marche aussi par le pardon. Je marche par la grâce. Et avant de poursuivre la lecture, là, dans laquelle Jean nous mène, donc, il va nous plonger dans une petite exhortation. Toute petite, mais très dense, comme vous allez le voir. Et donc, je lis maintenant 1 Jean, chapitre 2, les versets 12, 13 et 14. Et ça nous suffira bien pour ce matin. Donc, c'est du style johannique. Vous allez voir, c'est sympa. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et je m'arrête là. Une triple exhortation, un espèce de petit poème où il y a une grosse répétition là, écrit par Jean, où il va encourager toute l'assemblée. On voit apparaître trois groupes de personnes qui l'encouragent. Les petits-enfants ou les jeunes-enfants, les pères et les jeunes gens. On pense que ça correspond aux vieux routards de la foi, les pères, qui ont bourlingué avec Jésus peut-être, ou qui sont aguerris, ou peut-être que simplement ce sont les personnes les plus âgées de l'Église. Les jeunes gens, peut-être les chrétiens, qui ne sont pas encore à la fin de leur vie, ou je ne sais pas, mais en tout cas qui sont dans une espèce de force de l'âge, et puis les enfants. Alors on ne sait pas trop si la première exhortation, les petits-enfants, et la deuxième exhortation au verset 14, les jeunes enfants, ça s'adresse exactement aux mêmes. Parce que souvent, Jean, quand il dit petits enfants, il s'adresse à tout le monde, et une façon de dire à toute l'Église combien il les aime. Alors que le terme grec qu'il emploie au verset 14 pour dire jeunes enfants, il n'y a pas cette dimension affective dedans, même si ça désigne des petits. Voilà. Alors qu'est-ce qui demande aux aînés, qu'est-ce qui demande aux jeunes dans la force de l'âge et qu'est-ce qu'ils demandent aux enfants? Oui, parce qu'on va englober les femmes là-dedans aussi. On va dire les pères et les mères, les parents. On va dire les jeunes hommes et les jeunes femmes et on va dire les enfants au sens large. Il rappelle par deux fois aux aînés, aux parents, aux barbes blanches et aux cheveux blancs, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, deuxième fois, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est étonnant, en fait, que Jean présente l'Évangile comme quelque chose de très, très ancien. Vous avez connu celui qui est dès le commencement, comme si les aînés étaient détenteurs d'une sagesse très ancienne. Alors que quand il écrit... Le christianisme a combien? Même pas 10 ans? Ah si, peut-être que Jean écrit un peu tard, donc on va dire 30 ans, même pas. Mais c'est quelque chose de récent, une religion qui n'a jamais existé auparavant. Une religion qui a tout bouleversé. Le rapport à l'État, on ne peut pas adorer l'empereur, le rapport à l'argent, le rapport aux juifs, le rapport au sein de la famille. Le rapport entre l'homme et la femme, le rapport entre les parents et les enfants, le rapport entre les maîtres et les esclaves, tout a été bouleversé dans le christianisme. C'est une révolution, presque. Et pourtant, Jean le présente comme quelque chose de très ancien. Peut-être pour rassurer les aînés, parce que parfois les aînés ne sont pas trop chauds de voir les choses trop bouleversées. Alors, peut-être qu'il les présente en disant « Non, mais en fait, vous avez l'impression que c'est une nouveauté. » Mais la foi chrétienne n'est pas une nouveauté. C'est un retour à ce qui aurait toujours dû être. Un retour à ce qui aurait toujours dû être. La foi chrétienne, c'est redécouvrir cette intimité avec Dieu, redécouvrir... Parce que Adam et Ève la connaissaient déjà. Mais l'humanité l'a perdue pendant des millénaires. Et nous la redécouvrons à travers le don du Saint-Esprit. Et encore, c'est une redécouverte partielle. Redécouvrir que l'amour est à l'origine de tout, que l'amour précède l'ordre, que l'amour précède le sens des choses, que l'amour précède notre propre existence. Redécouvrir que le but de la vie, c'est de vivre, et non pas de servir ou d'être utile, ou d'être performant, ou de produire, ou de mériter. Redécouvrir tout un tas de vérités fondamentales à travers le christianisme. Et elles ne sont pas nouvelles, même si elles nous paraissent nouvelles. En fait, elles sont très anciennes, puisque ce sont ces vérités-là qui ont fondé le monde. Alors vous, les aînés, qu'avez-vous à nous dire? Pour le dire doucement, vous êtes plus proche de votre rendez-vous avec le Seigneur que les plus jeunes. Ce faisant, vous êtes capable de faire le tri entre ce qui est important, essentiel, et ce qui est secondaire. Ce que nous, les plus jeunes, ce que eux, les encore plus jeunes, peinent à voir. Tout est important. Quand je vois les états d'émotion dans lesquels mes enfants de 8-10 ans peuvent se mettre pour des choses qui me paraissent mais tellement futiles. Mais c'est tellement important pour lui. Et plus on arrive en maturité, plus on avance en âge. Et plus on apprend à relativiser les choses. 2 mois pour un enfant de 8 ans, c'est tellement loin. 10 ans pour un aîné d'une 60aine d'années, ça passe comme ça. Père et mère, vous avez connu celui qui est de le commencement. Jean vous exhorte à être des vigiles, des sentinelles dans l'Église, des sources de conseils, des aidants, ceux qui vont rappeler le sens des choses, parce que vous connaissez l'histoire, parce que vous connaissez le temps, vous connaissez celui qui est dès le commencement. À vous, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin, vous êtes fort, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Alors, je m'adresse aux jeunes gens, à vous de voir dans votre cœur si vous êtes un jeune gens, je ne juge pas, mais est-ce que ça veut dire jeune chrétien, chrétien dans la force de la... ou est-ce que ça veut dire quelqu'un qui, voilà, qui est au milieu de sa vie, je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez des guerriers au point d'avoir vaincu le diable? Qui ici dit « Oui, moi j'ai vaincu le diable ?» Jean nous le dit, vous avez vaincu le malin, bim, vous êtes fort. Ah bon ? La parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Comme si cette génération-là, dans la force de l'âge, était au front, était au combat. Comme si elle était le fer de lance de la lutte spirituelle qui se passe au sein de l'Église. Et à eux d'être en charge de mener ce combat. Comment le mènent-ils ? En demeurant dans la victoire de Christ, donc en demeurant dans le camp de la lumière, en ne changeant pas de camp, en demeurant dans le camp de la lumière et en gardant cette parole de Dieu qui est en eux. La parole de Dieu demeure en vous. Il y a dans cette génération-là la transmission, la courroie qui se fait entre la plus jeune qu'on va voir tout à l'heure et puis cette ancienne-là qui tranquillement s'assoit pour transmettre, pour partager, pour conseiller et transmettre. Gardez la parole de Dieu, gardez le combat, soutenu par cette génération d'aînés qui, eux, l'ont vécu avec toutes les expériences avec toutes les fausses routes qu'on a pu faire, mais qui sont aujourd'hui riches d'enseignements par la grâce. Et puis cette jeune génération, les enfants, vous connaissez le Père. Vos péchés vous sont pardonnés et vous connaissez le Père. Autrement dit, vous faites partie de la famille. Les enfants, les jeunes, vous faites partie de la famille. Vous connaissez le Père, vous êtes adoptés. Croyez-le. Et ces jeunes enfants, dans la foi, ont pour mission principale de s'enraciner, de faire leurs racines, et de faire leurs racines dans quoi ? Dans la grâce. Vous êtes adoptés, vos péchés vous ont été pardonnés. Et on sent pour les jeunes chrétiens, les nouveaux dans la foi, que cette grâce, que ce pardon, est parfois difficile à garder en main. On le croit, on se réjouit aussitôt qu'on nous l'annonce, mais laisser ce pardon transformer notre vie, croire que tout nous a été pardonné, croire que nous n'avons plus rien à mériter, croire que nous ne pouvons rien faire qui va amener Dieu à nous rejeter. Ou à l'inverse, vous pouvez tout faire, ça ne conduira toujours pas Dieu à vous rejeter. Rentrer dans cette grâce-là de l'adoption, Dieu est ton Père, tu es son enfant. C'est le travail des jeunes chrétiens. Enracinez-vous dans cette grâce. Le combat, il est mené par vos aînés, les jeunes gens, et il y a la génération des têtes blanches qui veille et qui transmet son expérience, son savoir. Voilà la triple exhortation que Jean nous adresse, enfin adresse à cette église-là, et qu'on peut recevoir nous aussi. Et je veux attirer votre attention sur une chose, c'est que Jean n'exhorte pas les pères et les mères en disant « Vous avez intérêt à connaître celui qui est dès le commencement » ou « À votre âge, vous devriez connaître celui qui est dès le commencement » ou quoi que ce soit de ce style-là. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. C'est une déclaration, c'est une affirmation. Jean n'est pas en train de vous dire « Vous devriez parvenir à tel stade ». Il est en train de vous dire « Vous y êtes, comme un don de Dieu. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ayez confiance en ce qui a été déposé en vous. » Ayez confiance en ce qui a été déposé en vous. Vous avez l'Esprit Saint. Vous avez ce long parcours de vie derrière vous. Activez les deux ensemble et vous serez une source de sagesse. Vous serez une source de sagesse. C'est un don de Dieu. Un rôle, une vocation à laquelle vous êtes appelé maintenant. Et nous savons que Dieu donne ce qu'il ordonne. Si Dieu vous ordonne d'être saint, il va vous sanctifier. Si Dieu vous ordonne d'être juste, il va vous justifier. Si Dieu vous demande de travailler pour lui, il va vous donner des œuvres. Si Dieu vous exhorte, vous, mes aînés, à être des sources de conseils, d'accompagnement, de soutien pour la génération qui est au front, il va vous équiper. Mais comment faire pour conseiller des générations qui ne veulent pas écouter ? Je vois des sourcils qui se lèvent. Et oui, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Il faut le fruit de l'esprit. Il faut le fruit de l'esprit. Paul l'a dit dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 13, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. Je ne suis qu'un. Combien de temps vous pouvez rester à côté de quelqu'un qui tape comme un sourd avec une cuillère en bois sur une casserole sans que ça devienne très pénible? Combien de temps je peux rester à côté de quelqu'un qui tape sur une casserole? Je ne suis qu'un airain qui résonne, c'est ça. Si je n'ai pas d'amour, je peux avoir toute la connaissance du monde, parler les langues des anges, avoir tous les mystères qui me sont révélés. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. C'est-à-dire que je suis désagréable à entendre. Les gens vont me fuir. Je dois être rempli de cet amour. Mais je n'en ai pas, Seigneur. C'est pas grave. Dieu donne ce qu'il ordonne. Priez, demandez et vous recevrez. Mais ce n'est pas facile de transmettre à la jeune génération. Et je lisais un article qui disait, écrit par un pasteur, qui encourageait les églises. Il habite en Suisse et il est, là où il est dans son église, dans son union d'église, il y a des vieilles églises mourantes. Et il a écrit un article en disant « Église mourante recherche désespérément et urgemment grands-parents pour sauver sa vie ». Et en fait, il faisait tout un parallèle entre les parents et les grands-parents. Alors les parents, ils éduquent, ils sont au front, ils travaillent, ils doivent transmettre et ils ont la charge que la génération des enfants, là, parvienne à l'âge adulte. Et les grands-parents, en fait, ils ont fini. Et ils ont des petits-enfants. Mais ce n'est pas à eux que revient, sauf si les parents sont vraiment trop démissionnaires et absents, mais ce n'est pas à eux que revient d'élever les enfants. Et ils peuvent être dans une relation tout à fait de bienveillance, de réjouissance, d'accueil, de complicité, d'amitié avec les petits-enfants que les parents n'ont pas forcément accès. Et d'un autre côté, en fait, aussi, ils ont toute une expérience à transmettre à leurs enfants, mais qu'ils ne peuvent plus imposer. Ils ne sont plus en train d'éduquer leurs enfants, qui sont déjà devenus des parents maintenant. Ils doivent les laisser faire leur choix, les accompagner dans leur bon ou mauvais chemin, sans être en charge des conséquences. Parfois c'est difficile, parfois c'est reposant. Et dans les églises, parfois, il y a des jeunes qui voudraient prendre la place et des vieux qui ne veulent pas la laisser. Et dans certaines églises de Suisse, justement, qui se mouraient, ils disaient, voilà, nous avons besoin que vous deveniez des grands-parents et que vous laissiez la génération montante prendre sa place, faire ses erreurs et que vous les accompagniez avec bienveillance et persévérance. Oui, nous, les parents actuels avons besoin d'avoir autour de nous des grands-parents, des gens qui sont peut-être riches en conseils, mais qui acceptent que nous fassions notre propre chemin. Combien de fois ai-je entendu « Oui, mais il ne fait pas ce qu'on lui dit !» Eh oui, parce qu'il a besoin de tracer son propre chemin. Il a besoin que son chemin soit le sien, construit avec les conseils des autres, mais que ce ne soit pas le chemin d'un autre. Et avec l'amour, persévérance et patience, on demeure à côté de ces jeunes adultes fougueux et immatures qui font rien que ce qu'ils veulent. Vous allez voir que si on construit une relation de complicité et d'intimité avec eux, il se passe des belles choses. J'ai perdu où est-ce que je voulais être. Oui, donc Dieu nous donne ce qu'il leur donne. Le combat spirituel pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. L'appareil, on se sent dépassé. Ah bon ? T'es sûr que Jean, nous avons vaincu le malin ? Moi, je ne vois pas dans ma vie que j'ai vaincu le malin. Oui, mais tu es dans le bon camp. Persévère dans ce camp. Ah bon, tu trouves que je pratique la parole de Dieu, qu'elle demeure dans mon cœur ? Moi, je ne trouve pas. Oui, mais j'ai mis mon esprit en toi. Et là, pareil, nous sommes dans la même situation où en fait Dieu donne ce qu'il ordonne. Jean est en train d'affirmer ce que nous avons reçu par la foi. À nous de le vivre, de le croire, de le mettre en pratique. Et comme nous a exhorté Philippe, c'est dans notre faiblesse que la force du Christ apparaît. Mais est-ce que j'accepte ça? Ou est-ce que je préfère la puissance? Est-ce que j'accepte cette vulnérabilité? Si vous saviez la fécondité au niveau communautaire et relationnel qui existe dans la vulnérabilité. La fécondité qui existe dans la vulnérabilité. Mais oui, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Oui, on s'expose. Oui, on peut être blessé et oui, on peut être trahi tout à fait. Et oui, quand on est trahi et blessé par quelqu'un de l'Église, ça fait deux fois plus mal. Parce que ça ne devrait pas avoir lieu. Et oui, ça arrive. Bien sûr. Et quand on ose le faire et que l'esprit est au rendez-vous chez eux comme chez moi, chez vous comme chez nous, et qu'on arrive à mettre cette vulnérabilité en lumière, dans la bienveillance. Vous dire que l'esprit fait du ménage et du bon et que l'Église grandit fortement. Mais ça demande, oui, du courage. Mais c'est ça le combat spirituel chrétien. Nous, on aime la puissance. L'apôtre Pierre aime la puissance. Qu'est-ce qu'il disait à Jésus? Je meurs pour toi, Seigneur. Et quand les gardes débarquent dans le jardin de Gethsémané pour s'emparer de Jésus, qu'est-ce que fait Pierre? Il dégaine son épée et il fonce. Même pas peur. Mourir pour la gloire du Seigneur, amen. Mais l'épée à la main, avec les cheveux qui volent, parce que c'est classe. Parce que je peux être fier d'une mort pareille. N'est-ce pas? Mais suivre Jésus dans la honte, des crachats de la foule, des insultes, dans le dénuement, pour être jugé à un procès inique et crucifié de manière totalement injuste. Non, je ne peux pas le suivre là. Mais c'est mourir pour moi. Oui, mais c'est mourir de façon humiliante. Moi, je voulais mourir d'une manière glorieuse. Je veux être fort pour toi, Seigneur. D'accord. Alors le courage, c'est d'aller dans ta faiblesse. Non, moi je préfère faire passer des Bibles clandestinement en Corée du Nord. Ça c'est... Non? Non. Va plutôt montrer ta vulnérabilité à tes enfants. Ah non, ça c'est trop difficile. Je préfère la Corée du Nord. Va dire à ton épouse que tu l'aimes tous les jours. T'es sûr? Oui, ça c'est le vrai courage. Va dire que tu as eu tort et que tu n'aurais pas dû faire ça. Mais il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. Si. Il y a mon héroïsme, l'héroïsme du Christ. Et je peux vous dire que pareil, celui-là, il déménage. Et vous, les enfants, cette grâce et ce pardon, vos péchés vous sont pardonnés en son nom. Vous avez connu le Père. C'est un lieu commun à toute l'humanité. Vous avez tous, nous avons tous été les enfants de quelqu'un. Tous. Et je vais vous dire une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Si vous êtes vivant aujourd'hui, maintenant, vos parents n'ont pas tout raté. Sinon, vous ne seriez pas là. Ça ne veut pas dire que vos parents vous ont transmis le véritable visage du Père. Même, je vais être un peu plus franc avec vous. En fait, à quelques endroits, vos parents ont échoué à refléter le Père auprès de vous. Et pourtant, la mission de tous les parents humains, de la terre entière. C'est de refléter une chose, l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et moi qui suis un papa en activité, je sais que je n'y arrive pas. Il faut que je m'efface face à mes enfants pour laisser passer le vrai père. Et il faut que quelque part ils sachent qu'au-delà de moi, au-delà de ma femme, il y a un endroit où ils sont acceptés inconditionnellement. Et à moi de m'efforcer de le refléter auprès d'eux. Les enfants ont besoin de savoir ça. Ils ont besoin de savoir que nous ne sommes pas le modèle, nous sommes le pâle reflet. Ils ont besoin dans cette église de recevoir cette espérance, cette certitude qu'il existe un vrai parent. On l'appelle le Père. On l'appelle le Père parce que, non pas qu'il ne soit pas une mère aussi, parce que toutes les mères reçoivent toute leur maternité et leur amour maternel et leur féminité de Dieu. Donc, voilà, parce que vous êtes à l'image de Dieu comme nous. Mais on l'appelle le Père parce qu'en fait, une mère, elle enfante son enfant. Son enfant est issu d'elle. Alors que le père, ben nous, on rencontre verbalement nos enfants. On n'a pas, passe pas de la fusion à la relation. Nous, on passe de l'inconnu à la rencontre. Et Dieu le Père, on le rencontre comme ça. C'est ça qui s'est présenté à nous comme Dieu le Père. Même s'il y a aussi la mère chez lui. Jeunes enfants, vous avez connu le Père, vous êtes adopté, vous êtes dans la famille. Et la leçon numéro un du christianisme, la leçon numéro un de l'évangile, c'est Dieu t'aime sans condition. La leçon numéro un du christianisme, c'est Dieu t'aime sans condition. Idéalement, quand on quitte ses parents, s'ils nous ont aimés sans condition, mais ça ne se passe pas souvent comme ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher quelqu'un. Et on va se marier avec lui. Et cette personne, normalement, aussi vient réparer ou compléter ce qui a manqué d'amour inconditionnel. Et nous, pareil, on lui promet un amour inconditionnel. Pour, à notre tour, avoir des enfants et leur donner un amour inconditionnel. Vous voyez un peu le cycle de la vie. Nous sommes aimés sans condition. Et nous avons tous terriblement besoin de ça. Vous voyez cette triple exhortation qui s'applique à toute l'Église en réalité, parce que vous aussi, les aînés, vous avez besoin de savoir sans cesse que vous êtes aimés sans condition. Vous aussi, les aînés, vous continuez votre combat spirituel contre le diable. Et vous aussi, les jeunes gens, vous pouvez déjà connaître celui qui était dès le commencement. Et vous aussi, les enfants, des fois, vous affrontez le diable dans votre vie. Mais intéressant de voir comment Jean organise un peu l'Église. Nous invite à vivre quelque chose de communautaire, à mettre les enfants au milieu et que toutes les générations prennent soin d'eux, à mettre les aînés à la fois au repos, à la fois dans une position de sagesse et de transmission, à mettre ces jeunes gens au front pour protéger le corps du Christ et agir et transmettre. Et dans tout ça, contemplez que Dieu donne ce dont vous avez besoin pour remplir votre mission. Jean affirme ce que vous êtes. Il ne vous demande pas de devenir. Il dit vous l'êtes. Croyez-le et agissez ainsi. Mais le tout, dans l'amour. Le tout, dans l'amour. Je débattais avec quelqu'un. Il faut que je m'arrête. Je débattais avec quelqu'un qui disait, ah, il n'y a plus d'autorité. Toutes les autorités sont rejetées et négligées. Je suis d'accord avec ce constat. Sauf que pour moi, les autorités ont un peu tout trahi. Et pour cette personne, les autorités étaient plus, voilà, c'est plus le progressisme qu'ils avaient tout évacué. Donc on était d'accord, il n'y a plus d'autorité, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Alors on se dispute un peu, et puis, oui, mais il vaut mieux de l'autorité que le chaos. À la fois, je comprends. À la fois, ça me chiffonne. Et la personne de me dire, mais tu vois, la première chose que Dieu fait en créant le monde, c'est de mettre de l'ordre. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Par amour. Donc le véritable ordre vient de l'amour. Mais nous pouvons mettre des ordres sans amour. Il existe un ordre qui m'arrange moi. Il existe un ordre qui bénéficie à la vie de tous. Que nous soyons tous et toutes motivés dans toutes ces choses, le combat spirituel, s'enraciner dans la grâce ou devenir des aînés riches de conseils et de sagesse, que tout trouve sa source dans l'amour. Comme l'a dit Jean quelques versets avant, celui qui aime son frère, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il ne risque pas de tomber. Que l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous anime dans les jours qui viennent pour vivre la mission qui vous est confiée. Amen.